divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Aya Sissoko, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous retrouver à l'antenne de l'Union rationaliste ce dimanche matin pour évoquer le nouvel ouvrage que vous venez de publier chez Kalman Levy, Nba, ma mère en Bambara. Vous étiez venue en 2011 nous parler de Dambé, livre coécrit avec Marie Desplechin, dans lequel vous décriviez le parcours de vos parents du Mali à Paris, leur aventure, puis la vôtre. Celle d'une enfant, puis d'une jeune fille du 20e arrondissement, qui devient championne du monde de boxe. Depuis lors, il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie.
Oh oui.
Et notamment du côté des mères. Parce que vous êtes devenue mère, et vous avez eu la douleur de perdre très vite, après la naissance de votre fille, votre mère. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous avez ressenti la nécessité d'écrire un livre sous forme d'hommage à votre mère. Et la relation que vous aviez à votre mère, comme peut-être le sont toutes les relations aux mères, fut ambivalente, complexe, pleine de colère et d'admiration de part et d'autre. Alors, ma première question porte sur ces colères entre vous, sur leurs raisons, sur ce que vous avez réussi à en faire, vous, Aya Sissoko, qui êtes très souvent une femme en colère, dans le bon sens du terme.
Bah effectivement, ce sont deux femmes en colère. Enfin, en colère parce que le destin s'acharne sur elles. En colère parce que la vie est injuste. En colère parce que ce sont deux femmes qui veulent absolument exister. Ma mère veut préserver son identité africaine, son identité de femme malienne. Et moi, je veux être une autre femme que ma mère. Et donc tout ça dans un espace restreint, l'appartement. Et donc ces deux femmes vont s'opposer, parfois violemment, souvent même violemment, mais avec cette femme, cette mère très intelligente va se rendre compte que sa fille ne peut pas avoir le même destin qu'elle, en tout cas pas en France. Et donc elle va la laisser faire. Elle va lui donner la liberté d'être celle qu'elle veut être. Mais en tout cas, elle ne renoncera jamais à celle qu'elle est, c'est-à-dire cette femme malienne qui a reçu une éducation africaine. Oui, le livre, c'est aussi raconter tout ça. Mais quand je dis elle ne renoncera jamais, c'est plus compliqué que ça.
Alors, qu'est-ce que vous avez en tête sur le plus compliqué que ça? Elle renonce quand même à des choses peut-être pour vous?
Effectivement, elle va renoncer à des choses pour nous, c'est-à-dire, en fait, le cas de ma mère est assez compliqué, c'est-à-dire qu'elle arrive, c'est la communauté malienne qui la rejette parce qu'elle refuse de retourner au pays.
Et donc, alors, peut-être qu'Aya Sissoko, il faut raconter à ceux qui n'ont pas lu Dambé les raisons pour lesquelles la communauté malienne va demander à votre mère de rentrer au pays, chose qu'elle va refuser.
Exactement. Donc c'est que à la suite du décès de son mari, donc de mon père, dans un incendie criminel, la communauté lui enjoint de quitter le pays parce qu'une femme seule n'a rien à faire en France. Et donc, elle va refuser d'obéir. Et donc, ils vont la mettre à l'index en lui disant, si c'est comme ça, débrouille-toi.
Seule.
Seule, avec trois enfants, puis deux enfants à charge. Et donc, il y a cette colère, effectivement. Mais
qu'elle ressent face à la communauté, face à cette abandon.
Effectivement, parce que la communauté se construit sur la solidarité, sur la conscience de l'autre. Et pour le coup, elle se dit, mais tout ce qu'on m'a appris, enfin, est-ce que c'est vraiment ça dans la pratique, finalement, les choses ne sont pas telles qu'elles sont dites. Et donc, elle va se dire, ok, tant pis, en tout cas, moi, je reste ici, mes enfants resteront ici. Si mon mari a fait des milliers de kilomètres, c'est peut-être parce qu'effectivement, le pays d'accueil, le pays dans lequel on est,
peut nous apporter des choses.
Mais à côté de ça, elle est viscéralement attachée à cette culture africaine. Elle se dit, non, c'est que peut-être que les hommes abîment ce qu'on nous a appris, mais moi, en tout cas, je ne serai pas comme eux. Et donc finalement, cette femme qui a cette femme va finalement faire comme mieux que les hommes. C'est-à-dire qu'elle va accueillir tous les hommes, toutes les femmes qui vont lui demander secours. Elle va les accueillir sous son toit. Malgré l'avis parfois de ses propres enfants qui veulent un peu de tranquillité, elle va les accueillir, les nourrir, leur apporter son aide quand il va falloir une aide administrative, enfin et autres.
Financière beaucoup.
Aussi énormément. Et jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, elle se dit, moi je serai à la hauteur de l'éducation qui a été la mienne. Elle ne va rien lâcher. Et petit à petit, justement, cette communauté qui l'a rejetée et qui a attendu d'elle le faux pas, parce qu'on lui avait dit, prédit qu'elle se prostituerait pour élever ses enfants.
Une femme seule ne peut y arriver en dehors de la prostitution.
Évidemment. Elle ne peut y arriver qu'en utilisant son cul. Et donc, elle va travailler beaucoup. Et avec son salaire, médiocre... Elle va être à la hauteur. Et les hommes lui reprocheront d'avoir fait mieux qu'eux. Et en plus d'avoir su concilier justement ce que lui a apporté la France, les chances que lui a apporté la France et cet héritage africain.
Alors vous décrivez votre mère, Massiré Dansira, comme à la fois cette femme malienne qui refuse de quitter ses habits.
Son boubou, oui.
Son boubou, ses tongs.
Exactement.
Et vous décrivez aussi du même coup, à travers le personnage de votre mère, toutes ces travailleuses et ces travailleurs qui sont femmes de ménage, qui travaillent aux heures où...
Les véritables travailleurs ne sont pas encore arrivés.
Exactement. Enfin, les véritables travailleurs.
Oui, je le fais exprès. Là, je provoque. Et oui, parce que ma mère faisait partie de ce contingent de petites mains qui œuvraient avant le réveil des véritables travailleurs, donc véritables entre guillemets. C'est-à-dire que ce sont des travailleurs invisibles, des gens qu'on ne voit pas, que l'on croise, que l'on côtoie au quotidien sans savoir effectivement qui ils sont et même ce qu'ils font. Certains peut-être se disent, mais ces gens-là ne travaillent pas, profitent du système, alors que pas du tout, ce sont des femmes effectivement, et j'en connais énormément, qui travaillent très tôt le matin, et puis qui vont retourner travailler après justement le départ des véritables travailleurs, c'est-à-dire qu'elles ont des horaires totalement bancales.
Bancales, inconciliables, et très difficilement
conciliables avec une vie de famille, mais à côté de ça, justement, pour avoir ce semblant de dignité, elles se doivent de travailler. Et justement, ce livre aussi, Mba, c'est aussi rendre hommage à toutes ces femmes, parce que c'est un livre de femmes, c'est un livre qui parle de femmes, c'est la dignité des femmes, ces femmes qui prennent leur destin en main et qui se libèrent justement du joug de tous ces hommes. Massiré, ça a été ça, c'est-à-dire ça a été la première de sa communauté à arriver en France, à mettre les pieds en France, ça a été la première à travailler,
à s'en sortir.
Elle va donner la liberté à sa fille de choisir son mari, elle va donner la liberté à sa fille effectivement.
De choisir, donc
elle a essuyé énormément de choisir son sport qui est la boxe. Donc elle a essuyé les plâtres, cette femme. Et là, beaucoup lui ont emboîté. On marche sur ses pas actuellement.
Alors peut-être on peut rappeler aussi, parce que vous l'avez évoqué, la dignité de Massiré et le titre ou l'explication du titre de votre précédent ouvrage, parce que votre mère, elle incarne le Dambé. Et elle vous transmet le Dambé. Alors peut-être que ça serait bien d'expliquer comment vous incarnez le Dambé que Massiré a aussi incarné.
C'était justement quand je donnais une première définition dans Dambé, dans le livre Dambé. Et là, je reviens justement sur cet héritage d'Amba, parce qu'il a fallu encore maturer la chose. Qu'est-ce que véritablement le Dambé? C'est une question que j'ai énormément posée à ma mère, qui me dit le Dambé c'est très important. Oui, mais encore, qu'est-ce que c'est que le Dambé véritablement?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Définis-moi le terme. Et c'est vrai qu'avec très très récemment, je me suis dit c'est véritablement un talisman immatériel à celui qui sait écouter. Et savoir écouter, justement, savoir la conscience de l'autre. Et savoir être à sa disposition et être ouverte justement à ce que l'autre peut nous transmettre. Et donc le Dambé, c'est effectivement un talisman immatériel qui permet à celui qui sait écouter, qui sait recevoir, d'être quelqu'un de debout. En fait, le Dambé, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, c'est une force de caractère qui m'a été transmise par ma mère. Oui, avoir conscience de l'autre. Savoir qui est l'autre, déjà savoir qui l'on est soi-même, et ensuite savoir qui est l'autre, et effectivement,
Le respecter.
Le respecter avant tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus important que la vie, il n'y a pas plus important que l'individu.
Et une certaine image peut-être de la dignité.
Ah oui, de la dignité, c'est-à-dire ne jamais courber les chines, ne jamais donner raison à quelqu'un alors qu'il a tort. C'est-à-dire que ma mère aussi a eu le tort de toujours rester droite dans ses bottes. Ce n'est pas parce que tu me ressembles, ce n'est pas parce que nous venons du même endroit que je vais forcément te donner raison, si tu n'as pas raison. Et ça, c'est quelque chose qu'on lui a jamais pardonné. En fait, c'est cette rectitude morale qui était la sienne. Mm-hmm. Comme j'ai dit, Damba, elle est la digne héritière des guerriers Bambara, mm-hmm. qui ont préféré justement mourir plutôt que
de se rendre.
Enfin, et de se rendre, c'était surtout la défaite de l'humain, de l'être humain. Et
vous décrivez votre mère comme une combattante,
une guerrière. Combattante, mais parce que elle en a traversé des guerres, cette femme. Elle est toujours restée debout, elle a été patiente, elle a fait preuve d'abnégation, mais elle ne l'a jamais lâchée. C'est-à-dire que ma mère, quiconque en faisait la demande avait une couche chez elle, mm-hmm. à leur donner à manger.
Quitte à vous envahir pendant toute votre enfance.
Oui, quitte à nous envahir, c'est-à-dire que nous les enfants n'avions pas notre mot à dire. C'est comme ça. Ce qu'on m'a fait, je ne le referai, je ne le ferai subir à personne. C'est-à-dire, quiconque frappera à ma porte sera accueilli et bien accueilli.
La spécificité de Nba, c'est que vous avez souhaité que les paroles de votre mère, qui émaillent le livre, soient en Bambara. Alors, moi, je le lis un peu à la fois comme un hommage à son Dambé et à sa façon.
À qui elle était.
Si singulière d'incarner le Mali à Paris. Donc en tong et en boubou, puis peut-être grâce à vous plus tard en Nike.
Oui.
mais je le lis peut-être aussi comme un retournement de cette honte que vous avez éprouvée aussi, et je pense à la jeune
évidemment.
Aya, face à ce français approximatif de Massiré.
Mais évidemment, mais parce que Mba, c'est aussi un processus de réhabilitation de toutes ces personnes, toutes ces populations qu'on ignore. C'est vrai que ma mère faisait partie de cette élite qui avait un travail qui était très peu valorisant, une culture que l'on reconnaît pas ou peu, enfin en tout cas qui n'avait pas en tout cas de valeur là tout de suite, enfin dans le pays dans lequel elle était. Et donc c'est aussi une manière de me réapproprier justement cet héritage, cette culture, et de dire effectivement que ma mère et toutes ces populations appartiennent, ils sont inscrits dans une culture, ont des traditions. Après effectivement on les aime ou on les aime pas, mais en tout cas ils s'inscrivent dans une histoire. Et donc l'objectif, c'était aussi de raconter ça, raconter justement cette trajectoire de cette femme, de sa naissance au Mali, à l'éducation qu'elle a reçue, à son arrivée en France, et dire que c'est tout cet héritage aussi qui en a fait une femme debout.
Alors, le livre montre les rapports contradictoires de Massiré à la France, et notamment à travers la question des papiers, question brûlante d'actualité aujourd'hui. Et j'aimerais que vous nous parliez, Aya Sissoko, de cela, et peut-être des différentes temporalités que vous auriez pu remarquer et vivre. D'abord, du vivant de vos parents, entre l'administration française et les travailleurs immigrés, et de votre inquiétude aussi qu'on ressent très fort, comme l'inquiétude de Massiré, à la fin du livre, face au durcissement administratif et à la montée du racisme. Je pense justement à tout ce qui est dit autour de la page 261 du livre.
Mais de toute façon, moi j'ai grandi avec des gens, des oncles et autres autour de moi qui avaient cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce qu'ils n'avaient pas de papier. Et donc, le moindre déplacement, etc., était source d'angoisse. Et à chaque fois que l'un des membres du groupe recevait ses papiers, c'était une fête. À non plus finir. Enfin, la personne pouvait se projeter pleinement dans une existence. C'est-à-dire, il y a la difficulté, c'est-à-dire, ce sont des gens, en tout cas, même mon père, qui ont risqué leur vie pour venir en France,
pour faire le voyage,
l'aventure. C'est ce que je dis aussi d'en bas, c'est que les hommes, voire les femmes maintenant, n'avaient même pas la garantie d'atteindre leur objectif. Et donc obtenir les papiers, mais c'est enfin se dire ça y est, je vaux quelque chose, je suis inscrit effectivement dans la vie, je me réinscris dans la vie.
Je suis reconnu,
je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir subvenir à mes besoins, aux besoins des miens. Et d'ailleurs, ma mère, à la fin de sa vie, cette femme qui était farouchement attachée à sa culture africaine face à la montée, enfin, des racismes, se dit, il faut que je demande à être naturalisée, il faut que je demande à obtenir la nationalité française. C'est-à-dire que ma mère, avait peur. Elle se dit, la direction que prend notre société ne peut rien donner de bon.
L'inquiétude l'avait gagnée, vous dites. Ma craignait le rejet une fois de plus. Il n'y a qu'à voir l'actualité. Les Blancs n'ont que étrangers à la bouche. Les étrangers. Et voilà, hein, vous la faites parler Bambara en disant le pays se gâte. Voilà. Donc, il y a une crainte très forte de cette montée du racisme.
Mais évidemment, mais c'est un contexte qui est inconfortable pour tout le monde, pour tous, enfin, c'est le contexte délétère dans lequel on vit actuellement, ne peut rien donner de bon, et ça, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que toutes les populations, enfin, tout individu sensé, n'aspire qu'à vivre en paix. En paix, parce que c'est seule la paix, effectivement, nous permet de nous projeter dans un avenir, d'offrir un avenir à nos enfants.
C'est sur ces derniers mots que nous allons clore cette émission. Aya Sissoko, je vous remercie.
Ben, de rien.
Le dernier numéro des Cahiers Rationalistes porte sur le XVIIIe siècle et les Lumières, j'y renvoie. Et le numéro 197 de Raison Présente, qui vient de sortir, porte le joli titre du devenir stade du monde. Et comme Aya Sissoko est une sportive de haut niveau, c'est bienvenu. Le monde est-il devenu un grand stade et comment le penser ? Je remercie Yanis Djoudad et Dany Journeau qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain et je rappelle le livre d'Aya Sissoko, Ndba, chez Kalman Lévy.